Lucien de Samosate, Alexandre ou le faux prophète. Tu t'imagines peut-être, mon cher Cels, m'avoir imposé une tâche facile et légère, quand tu m'as prié d'écrire la vie d'Alexandre d'Abonautique, le fameux imposteur, avec ses fraudes, ses ruses hardies, ses prestiges, d'en faire un livre et de te l'adresser. Mais si l'on voulait raconter tout en détail, ce serait une œuvre aussi longue que le récit des exploits d'Alexandre, fils de Philippe. La perversité de l'un serait égale à la grandeur d'âme de l'autre. Cependant, si tu veux me lire avec indulgence et suppléer aux lacunes de ma narration, j'entreprendrai pour toi ce travail, et j'essaierai de nettoyer cette écurie d'Augias, sinon tout entière, du moins selon mes forces. J'en emporterai quelques paniers d'ordures, qui te permettront de juger quelle énorme quantité de fumier ont pu faire 3 000 bœufs en plusieurs années. Je rougis toutefois pour nous deux, pour toi et pour moi, pour toi, de croire que la mémoire d'un homme, 3 fois exécrable, est digne du souvenir de l'histoire, pour moi d'employer mon travail à tracer pareil récit, à dire les actions d'un homme qui, loin de mériter d'être offert au regard des hommes instruits, devrait être exposé sur un grand théâtre pour y être déchiré par des singes et des renards. Si cependant on voulait nous en faire un crime, nous aurions à produire, pour exemple, un fait analogue. Arien, le disciple d'Épictète, homme distingué chez les Romains, et dont la vie a été tout entière consacrée à la science, a exposé un ouvrage semblable, et sa conduite justifie la nôtre. Il n'a point en effet dédaigné d'écrire la vie d'un fameux brigand nommé Tilliborus. Pour nous, nous allons faire l'histoire d'un brigand plus cruel encore, et ce n'est pas au milieu des forêts ni sur les montagnes, mais dans les villes qu'il exerçait sa scélératesse. Il ne parcourait pas seulement, en les dévastant, la Mysie, le mont Ida ou quelques déserts de l'Asie. C'est l'Empire romain, pour ainsi dire tout entier, qu'il remplissait de ses dépravations. Mais avant de t'entretenir de sa personne, je veux d'abord te tracer son portrait du mieux que je vais pouvoir, n'ayant pas la prétention d'être un grand peintre. Sa taille, pour commencer par là, était haute, sa physionomie belle. Avec quelque chose de divin, il avait le teint blanc et le menton peu fourni de barbe. Ses cheveux naturels, mêlés à une chevelure artificielle, s'y ajustaient avec tant d'adresse qu'il y avait peu de gens capables de découvrir cette fraude. Ses yeux étincelaient et brillaient d'un éclat surhumain. Sa voix était douce et sonore en un mot. Il était de tout point irréprochable. Tel était son extérieur, pour son âme et son caractère, ô Hercule qui détourne les malheurs, ô Jupiter sauveur, et vous, Dioscure, qui écartez les fléaux, plutôt tombez au pouvoir des ennemis que de se trouver avec un pareil homme. Son intelligence, sa sagacité, sa pénétration le mettaient de beaucoup au-dessus des autres. Joignons-y de la curiosité, une grande facilité à apprendre, de la mémoire, un esprit capable de se livrer à n'importe quelle science, le tout au suprême degré. Mais il abusait étrangement de tous ses avantages, et les nobles instruments qu'il avait entre les mains ne servirent qu'à surpasser les hommes les plus décriés pour leur scélératesse, les Gercopes, les Eurybates, les Frimondas, les Aristomèdes, les Sostrates. Lui, cependant, écrivant un jour à Rutilianus, son gendre, et parlant modestement de lui-même, se comparait à Pythagore. mais que Pythagore me le pardonne. Cet homme sage, ce divin philosophe, s'il eût vécu du temps d'Alexandre, il n'eût été, j'en suis sûr, auprès de lui qu'un enfant. Au nom des grâces, ne pas croire que je dis ceci pour insulter Pythagore, ni que j'essaye de les mettre tous les deux en parallèle. Mais qu'on rassemble toutes les calomnies odieuses que l'on a semées contre Pythagore, et à la vérité desquelles je ne crois nullement, elles ne donneraient pas la plus légère idée de la fourberie d'Alexandre. Imagine-toi, représente-toi par la pensée la trempe d'âme la plus mobile, un composé de mensonges, de ruses, de parjures, de mauvais desseins, un génie prompt, audacieux, bravant le danger, patient dans l'exécution de ses projets, persuasif, attirant la confiance, imitateur, hypocrite de la vertu, et sachant feindre des vues contraires à ses véritables desseins. Jamais personne ne le vit, pour la première fois, sans le croire le meilleur, le plus doux, le plus simple, le plus véridique des hommes. Avec tout cela, un air de grandeur qui donnait à penser que ses idées n'étaient jamais occupées à de frivoles détails, mais tournées vers les plus hauts projets. Dans sa jeunesse, il avait une fort belle figure, comme on pouvait en juger encore par la taille. Et comme je l'ai souvent entendu dire, mais il se prostituait sans pudeur et se donnait à qui voulait le payer. Entre autres amants, il eut affaire à un de ces fourbes qui se disent habiles dans la magie et dans les enchantements divinatoires, gens qui font espérer des faveurs amoureuses, la délivrance d'un ennemi, la découverte d'un trésor, la chance d'un héritage. Celui-ci, voyant un enfant plein d'intelligence, prêt à tout ce qu'il voudrait en faire, et non moins épris de la fourberie de son maître que le maître l'était de la beauté de son élève, se chargea de l'instruire et ne cessa d'en user comme d'un aide, d'un ministre, d'un serviteur. Cet imposteur était, du reste, une sorte de médecin qui savait, aussi bien que la femme de l'Égyptien Thône, mêler à des poisons des plantes salutaires. Et qui était le successeur et l'héritier de cette magicienne? Ce maître d'Alexandre, et tout ensemble son amoureux, était originaire de Tyane, ami intime du fameux Apollonius, et initié à sa mise en scène tragique. Tu vois à quelle école avait été formé mon héros. La barbe commençait à lui poindre lorsque son charlatan de Tyane vint à mourir et le laissa dans la pauvreté. La fleur de jeunesse dont il avait vécu, commençant à se faner, il se met à rouler de vastes projets. Il prend pour associé un chronographe de Byzance, un de ces hommes qui vous courent au jeu public, personnage de mœurs infâmes. Nommé, je crois, Coconas, puis ils partent tous deux pour aller faire leur tour et tondre les gens gras, suivant l'expression qui, dans l'argot des magiciens, sert à désigner les hommes du vulgaire. Dans ces circonstances, il rencontre une Macédonienne, riche, hors d'âge, mais voulant encore se faire aimer. Ils vivent quelque temps à ses dépens et la suivent en Bithynie et en Macédoine. Elle était de Pella, cité jadis florissante sous les rois macédoniens, mais ne comptant aujourd'hui que quelques pauvres habitants. Il voit en ce pays des serpents d'une grandeur considérable, mais si privés et si doux qu'ils sont nourris par les femmes, dorment avec les enfants, se laissent fouler aux pieds et presser aux mains sans colère, et têtent à la mamelle comme des nourrissons. L'espèce en est très nombreuse, et c'est probablement à cette circonstance qu'est due la légende d'Olympias. Elle couchait, je pense, avec un de ces serpents lorsqu'elle était enceinte d'Alexandre. Nos aventuriers achètent pour quelques oboles le plus beau de ces reptiles. Ce fut là, comme dit Thucydide, le commencement de la guerre. Ces deux effrontés fripons, disposés à toute espèce de crime, avaient aisément compris, en s'associant, que la vie des hommes est soumise à deux tyrans impérieux, l'espérance et la crainte, et qu'un homme qui saurait à propos exploiter l'une ou l'autre arriverait vite à la richesse. Il savait que celui qui craint ou qui espère désire ardemment et nécessairement connaître l'avenir, que Delphes s'était autrefois par ce moyen enrichi et rendu célèbre, ainsi que Délos, Claros, les Branchides, que ces tyrans des hommes, dont j'ai parlé tout à l'heure, la crainte et l'espérance, les amènent sans cesse dans les temples, où, pour apprendre l'avenir, ils sacrifient des hécatombes et offrent des briques d'or. Occupés entre eux de ces idées, ils mettent en commun, ils imaginent d'établir un sanctuaire et un oracle. S'ils avaient du succès, ils espéraient devenir bientôt riches et fortunés. Ils réussirent, en effet, au-delà même de leur attente, et leurs espérances furent dépassées. De là, ils examinèrent, d'abord en quel pays, puis en quel point de départ, et comment ils conduiraient leurs entreprises. Coconas regardait Calcédoine comme un théâtre convenable. C'était une ville marchande, située entre la Thrace et la Bithynie, à peu de distance de l'Asie, de la Gallo-Grèce et de toutes les nations environnantes. Alexandre, de son côté, donnait la préférence à sa patrie. Il soutenait, ce qui était vrai, que pour commencer leurs entreprises, ils avaient besoin d'hommes épais et grossiers, tels qu'étaient, selon lui, les Paphlagoniens, voisins d'Aponotique, gens tellement superstitieux et imbéciles que, dès qu'il vient à paraître quelque devin suivi d'un joueur de flûte, de tambour ou de cymbale, ils accourent autour de lui, la bouche béante, et le croient un envoyé du ciel. Après une légère discussion, l'avis d'Alexandre prévalut. Arrivé à Calcédoine, car il pensait que cette ville leur serait de quelque utilité, ils fournissent, dans le temple d'Apollon, le plus ancien du pays, des tablettes d'airain qui disaient que bientôt Esculape, accompagné d'Apollon son père, allait venir dans le pont et fixerait son séjour à Abonouteikos. Ces tablettes, trouvées à point nommé, on a soin d'en divulguer l'inscription, dans toute la Bithynie, dans le pont et particulièrement dans Abonouteikos. Les habitants de cette ville décrétèrent au même instant l'érection d'un temple et se mettent à en creuser les fondements. Cependant, Coconas demeure à Calcédoine où ils répandent des oracles douteux, ambigus, énigmatiques, mais ils ne tardent pas à mourir mordus, je crois, par une vipère. Alexandre, de son côté, s'avance, les cheveux flottants et bouclés, vêtu d'une robe de pourpre à raies blanches, avec un manteau blanc par-dessus, une épée recourbée à la main, comme on représente Persée, dont il prétendait descendre par sa mère. Ces pauvres Palaconiens, qui savaient pourtant bien que ses parents étaient des gens humbles et obscurs, n'en croient pas moins à l'oracle qui disait « Descendant de Persée, issu de Podalyre, cher à Phébus, dont le pouvoir l'inspire, Alexandre, comte des dieux, parmi ses illustres aïeux. » Or, ce Podalyre était un homme perdu de débauche, et près d'une ardeur si furieuse pour les femmes, qu'il était venu de Trica jusqu'en Paphlagonie pour jouir de la mère d'Alexandre. On trouva encore un oracle où la Sibylle s'exprimait ainsi. Près de Sinope, aux rives de l'Euxin, entre des murs, soumis au prince d'Ausonie, on verra naître un célèbre devin dont le nom seul dira la valeur infinie. D'abord l'unité simple, ensuite 3 × 10, puis l'unité 5 fois et 3 × 20 forme le nom puissant, quand tu les réunis, de celui qui t'arrache à la perte certaine. Armé de cet appareil tragique, Alexandre arrive, après quelque temps, dans sa ville natale, où il attire tous les regards et se fait admirer en feignant parfois un transport divin et en paraissant avoir la bouche pleine d'écume. Cet artifice ne lui était pas difficile. Il n'avait qu'à mâcher la racine de strubium, une herbe qui sert à la teinture. Mais cette écume avait pour les spectateurs quelque chose de surnaturel et de terrible. Depuis longtemps, en outre, il avait fabriqué avec de la toile une tête de serpent qui ressemblait assez à une figure humaine. Elle était peinte, façonnée avec art. La bouche s'ouvrait et se fermait au moyen de crins de cheval. Il en sortait une langue double, noire, comme celle des serpents qui s'avançaient et se retiraient aussi à l'aide de ses crins. Il avait en outre leur serpent de Pella qu'il nourrissait à la maison, en attendant le moment de le faire paraître en scène et de lui faire jouer le premier rôle de la pièce. Quand il fallut commencer, voici la machination qu'on employa. Alexandre descend la nuit dans les fondements nouvellement creusés pour l'érection du temple. L'eau s'y était amassée, soit qu'elle eût filtré à travers les terres, soit qu'elle fût tombée du ciel. Il y dépose un œuf d'oie qu'il avait préalablement vidé et dans lequel il avait enfermé un serpent nouveau-né. Il enfonce cet œuf dans une cavité pleine et retourne chez lui. Le lendemain, il court à la place publique sans autre vêtement qu'une ceinture brodée d'or qui lui recouvre les parties, sa fameuse épée recourbée à la main, secouant sa chevelure flottante comme les fanatiques qui célèbrent les fêtes de la bonne déesse, monté sur une sorte d'autel élevé d'où il harangue le peuple et félicite la ville de la visite prochaine de son dieu tutélaire. Les assistants, femmes, enfants, vieillards, la ville entière était accourue. Saisie d'étonnement, se répandent en prières et en adorations. Pour lui, mêlant à ses discours quelques mots inintelligibles, hébreux ou peut-être phéniciens, il achève d'en imposer à ses hommes crédules qui ne comprennent rien de ce qu'il leur disait, si ce n'est les noms d'Apollon et d'Esculape, et prie le dieu de venir dans la ville sous de favorables auspices. Il demande alors une coupe, on la lui donne. Il la plonge aussitôt dans l'eau et tire du milieu de la vase l'œuf dans lequel le dieu était enfermé et dont il avait eu soin de boucher l'ouverture avec de la cire et de la céruse. Prenant alors cet œuf dans ses mains, il s'écrie qu'il tient Esculape lui-même. Ses spectateurs, les regards fixés sur ce qu'il va faire, sont tout étonnés de voir qu'il a trouvé un œuf au milieu de l'eau. Alexandre le casse dans le creux de sa main et leur montre un petit serpent. Les assistants, le voyant s'agiter et se rouler autour des doigts du devin, jette de grands cris, salue le dieu et félicite la ville de son bonheur. Chacun, la bouche ouverte, éclate en prière, en souhaitant de trésors, de richesses ou de santé adressés au dieu. Alexandre, remontant sur son char, regagne sa demeure en emportant son Esculape nouveau-né, 2 fois mis au monde, tandis que les autres hommes ne naissent qu'une fois, et non pas issus de Coronis, ni d'une corneille, mais d'une oie. Le peuple tout entier l'accompagne, ivre de fanatisme et fou d'espérance. Durant plusieurs jours, le prophète ne quitte pas la maison, convaincu, ce qui était, qu'au bruit de cet événement, tous les Paphlagoniens allaient accourir. Lorsque la ville regorge d'hommes sans cervelle, sans cœur et sans ressemblance avec ceux qui vivent de pain, mais qui, à la forme près, ne sont que des moutons, notre devin se place dans une chambre, assis sur un lit, vêtu d'une longue robe, comme il convient à un dieu, mais dans son sein l'Esculape de Pella, qui était, ainsi que nous l'avions dit, d'une grandeur et d'une beauté remarquable, puis, le tournant autour de son cou, de manière que la queue sortit de dessous la robe, vu que la longueur du serpent permettait qu'enroulé dans le sein du prophète, il traîna jusqu'à terre, il lui tient la tête cachée sous son aisselle, ce que le reptile souffre avec patience, et fait voir, par l'ouverture de sa tunique, la tête de toile qu'il a fabriquée, comme si c'était réellement celle du serpent. Figure-toi maintenant, dans une chambre mal éclairée, où il pénètre qu'une faible lumière, un flux d'hommes tout hors d'eux-mêmes, frappés d'admiration et exaltés par l'espérance. À peine entrés, le premier prodige qui les étonne à bon droit, c'est de voir comment le petit serpent est devenu si gros en si peu de jours. Sa forme humaine, sa douceur ne les surprennent pas moins. Mais bientôt, ils sont obligés de sortir, sans avoir pu rien examiner de près, poussés par la foule qui rentre sans interruption. On avait pratiqué une issue en face de la porte, comme on le fit, dit-on, à Babylone, pour les Macédoniens, lorsqu'Alexandre tomba malade et fut réduit à l'extrémité, et que les soldats, entourant le palais, voulurent voir leur prince et lui dire un dernier adieu. Du reste, cette représentation ne fut pas la seule que donna cet imposteur. Il la renouvela, chaque fois, dit-on, surtout en faveur des riches, nouvellement arrivés. Cependant, mon cher Celsus, pour dire la vérité, on doit excuser les Paphlagoniens et les habitants du pont. Gens épais et ignorants, de s'être laissés tromper, même en touchant le serpent. Ce qu'Alexandre permettait de faire à tous ceux qui le désiraient. Il ne voyait en effet que d'un jour obscur une tête qui s'ouvrait et se fermait par un mécanisme si subtil qu'il eût fallu un Démocrite, un Épicure, un Métrodore ou quelques autres philosophes dont l'âme tellement cuirassée d'incrédulité qu'il entra en défiance et soupçonna la ruse ou qui, s'il ne la découvrit, fut parfaitement convaincu que malgré la difficulté de démasquer l'imposture, le mensonge n'en existait pas moins, attendu l'impossibilité du fait. En peu de temps, la Bithynie, la Gallo-Grèce et la Thrace accoururent auprès d'Alexandre. Chacun des visiteurs, en retournant dans son pays, ne manquait pas de dire qu'il avait vu naître le dieu, qu'il l'avait touché ensuite, parvenu tout à coup à une grosseur extraordinaire et ayant un visage humain. On fit aussi des images, des peintures, des statues, soit d'airain, soit d'argent, qui en inscrivant le nom du dieu, qui était Glycon, ainsi que l'avait ordonné un oracle en vers, s'étaient écriés « Je suis Glycon, issu du souverain des dieux. » Je fais luire aux mortels la volonté des cieux. Quand fut arrivé le moment d'exécuter le projet pour lequel il avait mis en jeu toutes ses machines, c'est-à-dire qu'il a fallu rendre des oracles et prévenir l'avenir à ceux qu'il allait l'en prier, il se modela sur l'Amphilochus, qui était honoré en Cilicie. Celui-ci, après la mort d'Amphiraüs, son père, disparut à Thèbes, avait quitté sa patrie et était venu en Cilicie, où il avait fait de bonnes affaires en prédisant aux Ciliciens et en prenant 2 oboles pour chaque oracle. Alexandre, se modelant donc sur lui, annonce à tous ceux qui viennent le voir qu'Esculape va rendre des oracles, et il fixe d'avance le jour. Il recommande à chacun d'écrire sur une tablette ce qu'il désire savoir et de la sceller d'un fil, cacheté avec de la cire et de la craie, ou toute autre matière semblable, puis, prenant les tablettes et pénétrant dans le sanctuaire, le temple était alors décidément construit et la scène préparée, il dit que ceux qui lui ont remis des demandes vont être appelés à tour de rôle par un héros et par un prêtre, et que, quand le dieu lui aura répondu, il rentra à chacun sa tablette cachetée, comme elle était, avec la réponse conforme sur l'indication du dieu, prêt à satisfaire à toutes les questions. Cette ruse eût été passablement grossière et facile à découvrir aux yeux d'un homme tel que toi, et si j'ose le dire, tel que moi. Mais des imbéciles, des gens au nez morveux, qui n'y virent qu'un prodige, un mystère incroyable. Notre homme avait imaginé différents moyens d'enlever les cachets. Il lisait toutes les demandes et y faisait les réponses les plus convenables, puis il roulait de nouveau les tablettes, les recachetait et les rendait, au grand ébahissement de ceux qui les recevaient. Ils ne cessaient de se dire les uns aux autres « Comment fait-il pour savoir que je lui ai remis dans une lettre soigneusement fermée et dont il n'est pas difficile d'imiter le cachet, s'il est vraiment un dieu à qui rien n'est inconnu ? Mais quelles étaient ses inventions ? Me demanderas-tu. Écoute, afin d'apprendre à démasquer ces sortes de ruses. Voici la première, mon cher Cels. Avec une aiguille rougie par le feu, il faisait fondre la portion de cire, placer sous le cachet, enlever le cachet lui-même, liser le contenu, puis fondant de nouveau avec son aiguille la cire placée sous le lin, et celle qu'il portait l'empreinte du cachet, il la recollait aisément. Le second moyen consistait à employer ce qu'on appelle du collyre, c'est-à-dire une composition de poids brittienne, d'asphalte, de pierre diaphane, réduite en poudre, de cire et de mastic. De tous ces ingrédients, Alexandre formait son collyre, le faisait chauffer, l'appliquait sur le cachet humecté de salive et en prenait ainsi l'empreinte. Ensuite, lorsque le collyre était sec, on ouvrait facilement la lettre, la lisait, y remettait une nouvelle cire et apposait un cachet aussi semblable au premier que s'il eût été imprimé avec un sceau de pierre. Écoute encore un troisième expédient. Au moyen de chaux, jeté dans de la colle dont on se sert pour coller les livres, il formait une sorte de cire qu'il appliquait sur le cachet lorsqu'elle était encore molle, qui devenait promptement sèche, plus dure que la corne et même que le fer, il s'en servait pour garder les empreintes. Je pourrais citer encore un grand nombre d'inventions analogues, mais il est inutile de les mentionner toutes, sous peine de paraître un homme de peu de goût, surtout aux yeux d'un écrivain comme toi, qui a suffisamment traité de ces matières et plus amplement que je ne le fais ici, dans ton livre, Contre les magiciens, ouvrage aussi beau qu'utile, bien fait pour inspirer de la réserve à tous ceux qui le liront. Alexandre rendait donc des oracles et prophétisait avec une extrême pénétration, sachant donner un air de probabilité à ses réponses, tantôt elles étaient obscures, susceptibles d'un double sens, tantôt complètement inintelligible, mais n'en ayant que mieux le caractère d'un oracle. Il détournait ceux-ci de leur projet, ou bien y excitait cela, selon la conjoncture la plus avantageuse. Il leur donnait à certains d'autres remèdes, ou tel régime, d'après la connaissance qu'il avait, ainsi que je l'ai dit, de plusieurs médicaments utiles. Celui qu'il avait mis le plus en vogue était les sitmes, espèce de drogue propre à guérir la fatigue et composée de graisse de chèvre. À l'égard des espérances, des succès, des héritages, il les remettait toujours à une autre fois, ajoutant « Tout cela viendra, quand je le voudrai, lorsqu'Alexandre, mon prophète, me l'aura demandé et aura fait des vœux pour nous. » Il avait en outre envoyé dans les pays étrangers des émissaires chargés de semer chez les différents peuples des bruits favorables à son oracle. Il répandait partout qu'Alexandre découvrait et faisait retrouver les esclaves fugitifs et les voleurs, dénonçait les brigands, révélait les trésors cachés, guérissait les malades et même avait ressuscité quelques morts. En conséquence, c'était une course, un empressement de tous les points, c'étaient les sacrifices, les offrandes, un salaire double pour le prophète et le disciple du Dieu. Car celui-ci avait tout exprès rendu cet oracle. « Je vous ordonne à tous d'honorer mon prophète, bien plus que vos présents, j'aime mon interprète. » Déjà cependant, plus d'un homme sensé, se réveillant comme d'une profonde ivresse, commençait à s'élever contre l'imposteur, et notamment tous ceux qu'il avait de spectateurs d'Épicure, insensiblement, l'on perçait à jour, dans les villes, tout ce charlatanisme et cet appareil de comédie. Alors, pour servir d'épouvantail à ses ennemis, il s'écria dans un oracle que le pont était rempli d'athées et de chrétiens qui osaient blasphémer indignement contre lui. Il ordonnait de les chasser à coups de pierre à tous ceux qui voudraient se rendre le Dieu propice. Au sujet d'Épicure, il rendit un oracle à peu près en ces termes. Quelqu'un lui ayant demandé ce que ce philosophe faisait dans les enfers, il répondit « Chargé de chaînes de plomb, il est assis dans le bourbier. Sois étonné ensuite de la gloire à laquelle son oracle était élevé quand tu vois de la part des visiteurs des questions aussi ingénieuses et profondes. Au surplus, il avait déclaré à Épicure une haine implacable et sourde, et l'on comprend bien pourquoi. À quelque autre, en effet, un fourbe, un charlatan, ami des prestiges, ennemi du vrai, peut-il déclarer la guerre à plus juste titre à Épicure, dont l'œil perçant pénétrait la nature de toute chose, et qui seul connaissait réellement la vérité. À l'égard des disciples de Platon, de Chrysippe ou de Pythagore, ils étaient les amis d'Alexandre, qui vivaient avec eux dans une paix profonde. Mais l'inflexible Épicure, c'est la qualité qu'il lui donnait, était son ennemi acharné, parce qu'il apprend avec raison à tourner tous les sortilèges en ridicule et en plaisanterie. Pour le même motif, de toutes les villes du pont, Amastris était celle qu'il détestait le plus, car il savait que Lépidus et un grand nombre de personnes y faisaient séjour. Aussi jadis, ne voulut-il pas rendre d'oracle pour un Amastrien. Un jour, qu'il eut l'audace de vouloir faire une prédiction au frère d'un sénateur, il fut obligé de se retirer, honteusement n'ayant pu fabriquer lui-même de réponse adroite, n'y trouvait personne qui en lui fît une à temps. Cet homme se plaignait de douleurs d'estomac, et Alexandre, voulant lui ordonner de manger un pied de cochon, préparé avec de la mauve, lui dit « Fais bouillir dans un vase une mauve de porc. » Souvent, comme je l'ai dit, il montrait le serpent à tous ceux qui le désiraient, mais non pas tout entier. Il n'en laissait passer que la queue et la partie inférieure du corps, ayant soin de tenir la tête cachée dans son sein, où l'on ne pouvait l'apercevoir, voulant donc frapper la multitude d'une plus grande admiration, il promit qu'il ferait voir le Dieu lui-même, parlant et rendant des oracles sans le ministère de son interprète. Pour cela, il attacha ensemble des artères de grue, qui aboutissaient à la tête de serpent faite à la ressemblance d'une tête humaine. Quelqu'un du dehors parlait avec force dans les artères, et, quand il répondait aux questions, sa voix passait à travers l'esculape de toile. On appelait ces oracles autophones, et ils ne se rendaient pas indifférents à tout le monde, mais aux gens vêtus de la prétexte, aux riches ou à ceux qui ouvraient des présents magnifiques. Telle fut la réponse faite à Severianus au sujet de son expédition en Arménie. C'était un oracle autophone. Pour l'engager à faire une irruption, Esculape lui dit « Partes, Arméniens, fléchissant sous tes lois, te suivent triomphant au bord fleuri du Tigre. Rome de ton succès rend toujours fière et libre, couronne de rayons, ton front et tes exploits. » Le Gaulois fut assez fou pour y croire. Il attaqua les ennemis et fut taillé en pièces avec son armée par Ortidates. Aussi Alexandre fit-il disparaître cet oracle de son recueil pour y substituer celui-ci. « Garde-toi d'attaquer les guerriers d'Arménie. Crains qu'un soldat, vêtu d'habits féminins, décochant contre toi sa flèche au coup certain, ne t'enlève à la fois la lumière et la vie. » En effet, il avait imaginé l'ingénieux procédé de fabriquer des oracles postérieurs aux événements, quand il voulait remédier à de fausses prédictions. Souvent, il est arrivé de promettre la santé à des malades, et quand ils étaient morts, il avait quelque oracle tout prêt pour chanter la palinodie. « Cesse contre tes maux de chercher un secours, l'inévitable mort vient pour trancher tes jours. » Comme il savait que les oracles de Claros, de Didyme et de Mal jouissaient d'une grande réputation dans un genre pareil au sien, il voulut se les rendre favorables en leurrant plusieurs de ceux qu'il venait d'interroger. Il disait à l'un « Rends-toi donc à Claros pour entendre mon père. » À l'autre « Consulte au temple saint l'oracle des Branchides. » À un troisième, à Mal, Amphilochus te dira l'avenir. » Tout ceci paraissait dans la circonscription de l'Ionie, de la Cilicie, de la Paphlagonie et de la Gallo-Grèce. Mais le bruit du nouvel oracle s'était répandu à Rome, chacun s'empressant à l'envi, les uns d'y venir eux-mêmes, les autres d'y envoyer des émissaires, et ce furent surtout les plus puissants, ceux qui avaient le plus de crédit dans la ville. À leur hôte vint se placer, en manière de coryphée, Rutilianus, homme estimable à tous égards et qui s'était distingué dans plusieurs fonctions de l'administration romaine. Mais malade de superstition et prêt à admettre au sujet des dieux les opinions les plus absurdes. Au seul aspect d'une pierre arrosée d'huile ou couronnée de fleurs, l'on aurait vu se prosterner, l'adorer, pendant un temps considérable, lui adresser des vœux et lui demander toutes sortes de biens. Dès qu'il eut entendu parler de l'oracle d'Esculape, peu s'en fallut pour qu'il ne désertât ce poste qui lui était confié pour voler à Abonouteikos. Il envoya du moins courrier sur courrier. C'était pour la plupart des serviteurs d'un esprit borné, qui furent aisément dupes. À leur retour, ils racontent tout ce qu'ils ont vu avec ce qu'ils ont cru voir et entendre. Et à force de grossir le récit, pour se faire mieux venir auprès du maître, ils enflamment l'imagination du pauvre vieillard et le jette dans une folie des plus robustes. Rutilianus, lié d'amitié avec les principaux citoyens de Rome, s'en va raconter à la ronde ce qu'il sait de la bouche de ses envoyés et ce qu'il ajoute de son propre fonds, en sorte qu'il remplit bientôt toute la ville, la met sans dessus-dessous et fait tourner la tête à la plupart des courtisans qui s'empressent d'aller eux-mêmes savoir quelque chose de leur destinée. Alexandre reçoit les arrivants avec une grande politesse, se concilie leur bonne grâce en leur offrant de magnifiques dons d'hospitalité, et les congédie tous, prêts non seulement à publier les réponses du prophète, mais à célébrer les louanges du Dieu, à chanter merveille de l'oracle et à mentir dans son intérêt. Cet exécrable imposteur employait encore une autre ruse fort adroite et digne d'un scélérat consommé. Si, en ouvrant les billets et en les lisant, il y trouvait des demandes hardies auxquelles il était compromettant de répondre, il s'en abstenait. Mais cette abstention même mettait sous sa main et pour ainsi dire à sa discrétion ceux qu'il avait interrogés, vu la crainte qui les dominait au souvenir de la demande qu'ils avaient faite. Or, tu comprends quelles questions pouvaient lui adresser ainsi les riches et les puissants. Aussi recevait-il de nombreux présents de ces hommes qui se sentaient pris dans ses filets. Je veux te rapporter ici quelques-uns des oracles qu'il donna à Rutilianus, le vieillard lui demandant quel précepteur il donnerait pour l'instruire dans les sciences à un fils qu'il avait eu d'une première femme et qui touchait l'âge de recevoir de l'éducation. Il répondit « Pythagore est le chantre immortel des combats ». Quelques jours plus tard, l'enfant mourut et notre homme était fort embarrassé, n'ayant rien à dire pour justifier un oracle qu'il était facile à chacun de convaincre de fausseté. Mais l'excellent Rutilianus vint de lui-même au secours du prophète, en disant que le Dieu avait assez clairement prédit le sort de son fils, puisqu'il n'avait point ordonné de lui choisir un précepteur parmi les vivants, mais Pythagore et Homère, morts depuis de longues années, et avec lesquels l'enfant allait sans doute habiter désormais chez Pluton. Pouvait-on savoir mauvais gré à Alexandre d'avoir voulu que l'enfant eût de semblables précepteurs? Une autre fois, Rutilianus lui avait demandé de qui l'âme était passée en lui. Alexandre répondit « D'abord, fils de Pélée, et puis de Ménandre, tu jouis à présent des célestes clartés. À devenir rayon ton âme peut s'attendre quand tes yeux auront vu 180 étés. » Cependant, le vieillard mourut d'un flux de bile à l'âge de 70 ans, sans attendre l'effet de la promesse des dieux. C'était pourtant un oracle autophone. Rutilianus lui avait un jour demandé s'il devait se remarier, et lui répondit nettement « Prends la fille qu'a eue Alexandre et la lune. » Il s'était plu effectivement à répandre le bruit que la fille qui lui était née était de la lune. La lune s'était éprise de lui en le voyant dormir, car c'est son habitude de devenir amoureuse des beaux dormeurs. Le sage Rutilianus, sans perdre un instant, envoya demander la fille en mariage, et on le vit, époux sexagénaire, célébrer un hymen qu'il consomma jusqu'au bout, après s'être rendu propice, la lune sa belle-mère, en lui offrant des hécatombes complètes et en se croyant déjà lui-même un des habitants du ciel. Une fois qu'il eut pris pied en Italie, il s'ingénia de ruses encore plus fortes. Il envoya, sur tous les points de l'Empire romain, des porteurs d'oracles annonçant aux différentes villes des pestes, des incendies, des tremblements de terre et promettant de leur venir puissamment en aide pour empêcher les malheurs d'arriver. Voici par exemple un oracle autophone répandu dans les nations au sujet de la peste. Il disait « Phébus aux longs cheveux chasse l'air empesté ». On put apercevoir ce vers inscrit partout et sur toutes les portes comme un préservatif du fléau, mais il arriva presque à tout le monde le contraire de ce qu'il promettait. Par un malheur singulier, les maisons sur lesquelles l'oracle était écrit furent plus particulièrement vidées d'habitants. Ne va pas croire toutefois que j'attribue à ce vers la cause de leur perte, mais le hasard voulut qu'il en fût ainsi. Peut-être aussi la plupart, trop confiants dans l'oracle, vécurent sans précaution, et ne suivant pas un régime assez sévère, et en aidant en rien l'oracle à les préserver de la maladie, convaincus qu'ils auraient les syllabes pour sauvegarde, et que Phébus aux longs cheveux chasserait la peste à coups de flèche. Cependant, ils entretenaient à Rome un grand nombre d'espions, confidents de ces fourberies, qui le tenaient au courant du caractère de chaque citoyen, des questions qu'il devait faire, des désirs qu'il manifestait, de sorte qu'on le trouvait toujours prêt à répondre, même avant l'arrivée des envoyés. Telles étaient, avec d'autres encore, les machines qu'il faisait jouer en Italie. Il institua, en outre, je ne sais quel mystère, avec des fêtes, des flambeaux, des fonctions d'hiérophantes, lesquelles duraient 3 jours consécutifs. Le premier jour, on faisait la proclamation, comme à Athènes, sous cette formule que tout athée, chrétien ou épicurien, venant espionner nos mystères, soit banni de ces lieux, mais que les croyants fidèles aux dieux soient initiés sous d'heureux auspices. Aussitôt après commençait l'expulsion. Il disait le premier, « À la porte, les chrétiens !» Et la foule tout entière répondait, « À la porte, les épicuriens !» Ensuite on représentait les couches de Latone, la naissance d'Apollon, son mariage avec Coronis et la venue au monde d'Esculape. Le second jour, on célébrait l'apparition de Glycon et la nativité de ce dieu. Le troisième était consacré au mariage de Podalyre avec la mère d'Alexandre, ce jour s'appelait Dadis, et l'on allumait les flambeaux. Enfin, on représentait les amours d'Alexandre et de la lune avec la naissance de la femme de Rutilianus. Alexandre, un flambeau à la main, et remplissant les fonctions d'hiérophante, jouait le rôle d'Odémion. Il se couchait et s'endormait au milieu du temple, alors que de la voûte, comme au haut du ciel, descendait au lieu de la lune une certaine Rutilia, très jolie femme, épouse d'un intendant de César, véritablement éprise d'Alexandre, qui la payait en retour. Et tous deux, sous les yeux de l'imbécile mari, se donnait sans contrainte, embrassa, baisa, peut-être même, s'il n'en avait pas eu tant de flambeaux, aurait-on vu s'accomplir ce qui doit se passer dans l'ombre. Un instant après, Alexandre rentrait en costume d'hiérophante, au milieu d'un silence profond, et s'écriait à voix haute, « Yo, Glycon, et yo !» Et le cœur, et les héros, gros paphlagoniens, chaussé de bottes, et exhalant une odeur d'ail, répétait à son tour « Yo, Alexandre !» Souvent, pendant la fête des flambeaux et des danses mystérieuses, il laissait voir à dessein sa cuisse qui paraissait d'or, probablement couverte d'une peau dorée, que l'éclat des torches faisait briller. Cette vue souleva un jour entre deux fous, soi-disant philosophes, la question de savoir si Alexandre avait l'âme de Pythagore comme il en avait la cuisse, ou bien s'il en avait une semblable. Ils soumirent leurs doutes à la décision d'Alexandre lui-même, et le roi Glycon fit cesser cet embarras par cet oracle. « L'âme de Pythagore est sujette au trépas, elle meurt, mais bientôt, vous la voyez renaître, celle du grand prophète, aux immortels doit l'être. » Et le bien de l'homme apparaît ici-bas, puis un jour Jupiter la reprend à la terre et la ravit au ciel d'un coup de son tonnerre. Il interdisait expressément à tous l'amour des garçons, comme un crime abominable, et voici ce qu'il pratiquait de son côté en homme vertueux. Il avait ordonné aux villes du Pont et de la Paphlagonie d'envoyer à ces fêtes triennales des ministres du culte, afin de chanter avec lui les louanges du dieu. Et il fallait qu'on les lui envoyât, après un examen et un choix sévères, des enfants nobles, bien faits, et d'une beauté parfaite. L'infâme, alors, s'enfermant avec eux, en usait comme s'il les eût achetés, partageant leurs couches et leur faisant subir toute la brutalité de ses passions. Il avait encore porté une loi par laquelle il était défendu à tous ceux qui avaient plus de 18 ans de le baiser sur la bouche en le saluant. Il tenait sa main à baiser à tous les autres, mais les beaux garçons seuls avaient le privilège d'être embrassés par lui. Aussi leur donnait-on le nom d'enfant des baisers. C'est ainsi qu'il abusait pour son plaisir de la crédulité des hommes, corrompant sans pudeur leurs femmes et souillant la candeur des enfants. Et pourtant, chacun regardait comme un grand, un désirable honneur qu'il jeta les yeux sur sa femme. S'il en jugeait quelqu'une digne de ses baisers, l'époux croyait aussitôt que la fortune allait verser toutes ses faveurs sur la maison. Plusieurs femmes se vantaient d'être enceintes de ses œuvres, et les maris témoignaient qu'elles disaient la vérité. Je veux te raconter une conversation que Glicon eut avec un nommé sacerdoce de Thio, et tu jugeras par les mêmes demandes du degré d'esprit de cet homme. J'ai lu moi-même ce beau dialogue écrit en lettres d'or à Thio dans la maison de sacerdoce. Dites-moi, Seigneur Glicon, qui êtes-vous? Je suis Esculape, le jeune, tout à fait différent du premier. Comment cela ne vous est-il pas permis de le savoir? Combien de temps resterez-vous parmi nous à rendre des oracles? 1003 ans. Ensuite, de quel côté irez-vous? Vers la Bactriane et les pays qui la voisinent. Il faut bien que les barbares jouissent de mon séjour chez les hommes. Les autres oracles, tels ceux de Didyme, de Claros, de Delphes, sont-ils véritablement inspirés par Apollon, votre aïeux, ou bien par ceux qui les rendaient? Ne sont-ils des imposteurs? Ne cherchez-vous point à savoir qui vous est défendu? Que serai-je après cette vie? Chameau, puis cheval, ensuite philosophe, et prophète, aussi grand qu'Alexandre. Telle fut la conversation de Glicon et de sacerdoce. Elle se termina par un oracle en vers, fait en vue d'un certain Lépidus, qu'Alexandre savait l'ami de son interlocuteur. Ne crois point Lépidus, un triste sort l'attend. Ainsi que je l'ai dit, il craignait singulièrement Épicure, comme un sage ennemi de toute fourberie et opposé à tous ses prestiges. Aussi, un épicurien ayant osé le confondre dans une nombreuse assemblée, il lui fit courir le plus grand danger. Ce philosophe, s'étant approché de lui, lui parlant à haute voix, « Tu es donc, dit-il, cet Alexandre qui a persuadé à un tel, de la ville de Paphlagonie, de livrer ses esclaves au gouvernement de la Gallo-Grèce, pour les faire mourir comme meurtriers de son fils, étudiant à Alexandrie. Or le jeune homme est vivant, il est revenu sain et sauf après la mort des esclaves que tu as fait livrer aux bêtes. Voici comment la chose s'est passée. Le jeune homme, ayant remonté le Nil et traversé l'Égypte jusqu'à Sclassima, y avait trouvé un vaisseau prêt à faire voile pour l'Inde et s'était laissé engager pour le pays. Comme il tardait à revenir, ses malheureux esclaves crurent qu'il avait péri dans les eaux du Nil ou qu'il avait été enlevé par de nombreux brigands qui désolaient cette contrée. Ils revinrent donc et annoncèrent cette disparition. On consulte l'oracle et les esclaves sont condamnés puis, sur ces entrefaites, le jeune homme revient et raconte son voyage. Tels furent les reproches de l'épicurien. Alexandre, irrité de se voir démasqué et ne pouvant supporter la vérité de la remontrance, ordonne à tous ceux qui étaient présents de lapider son contradicteur sous peine de se rendre coupable d'impiété et d'être appelé épicurien. Les pierres commençaient à pleuvoir lorsqu'un voyageur, nommé Démostrate, personnage marquant dans le pont, saisit le philosophe à bras-le-corps, lui sauva la vie au moment où il allait être lapidé. Il le méritait bien d'ailleurs. Qu'avait-il besoin de vouloir être raisonnable au milieu de tant d'insensés et de vouloir s'exposer à recueillir les fruits de la folie des Paphlagoniens? Voilà quelle fut cette aventure. Parmi les visiteurs qui étaient admis, à tour de rôle, à consulter l'oracle, et la liste en était arrêtée dès la veille, il s'en trouvait quelqu'un qui, sur cette demande du héros, « Voulez-vous prophétiser ?» Alexandre répondait à « Va-t'en au corbeau ». Celui-là ne trouvait plus d'abri. Personne ne voulait partager avec lui le feu ni l'eau. Il était forcé d'errer de pays en pays comme un impie, un athée, un épicurien. Ce dernier nom était la plus forte injure. Voici à ce propos un trait fort risible de notre Alexandre. Ayant trouvé le livre des pensées d'Épicure, le plus beau, tu le sais, de ses ouvrages, et qui contient l'abrégé de la doctrine de ce grand homme, il le porta au milieu de la place publique, le brûla sur un bûcher de bois de figuier, comme s'il brûlait le philosophe lui-même, et en fit jeter les cendres à la mer, et rendit cet oracle. « Brûle-moi les écrits de l'aveugle vieillard. » Le scélérat ignorait sans doute quel bien procure ce livre à ceux qui le lisent. Quelle paix, quel calme, quelle liberté il donne à l'âme en la délivrant des craintes, des fantômes, des prodiges, des vaines espérances, des désirs superflus pour y substituer l'intelligence et la vérité, et pour le purifier, non pas avec un flambeau, de la scie ou d'autres cérémonies ridicules, mais au moyen de la droite raison, de la vérité et de la franchise. Entre mille traits d'impudence, écoute, je te prie, celui qui est un des plus effrontés de ce misérable. Comme il avait un accès facile auprès du palais et de la cour,
par le crédit de Rutilianus,
il en profita pour envoyer un oracle, dans le temps où la guerre était allumée en Germanie, et que le divin Marc Aurèle était sur le point d'en venir aux mains avec les Marcomanes et les Cades. Cet oracle ordonnait qu'on jetât dans l'Ister deux lions vivants, avec une grande quantité d'aromates, et que l'on offrit de magnifiques sacrifices. Mais il vaut mieux rapporter l'oracle lui-même. Dans les flots de l'Ister, ce fleuve impétueux, jeté de serviteurs de la mère des dieux, de lions terribles, nourris dans les montagnes, jetez-y de l'Inde, en ses riches campagnes, fais croître de parfums, fais éclore de fleurs, à ce prix du combat vous sortirez vainqueur, et la paix couronnant le succès de vos armes, d'un repos fortuné vous goûterez les charmes. On fit ce qu'il avait ordonné, mais les lions, ayant atteigni à la nage, la rive où campait l'ennemi, les barbares les prirent pour des chiens ou pour des loups d'une espèce étrangère et les assommèrent à coups de bâton. Bientôt après, nous reçûmes un terrible échec, nous perdîmes plus de 20 000 hommes. Ce désastre fut suivi de la journée d'Aquilée, dans laquelle peu s'en fallut que cette ville fut prise. Pour justifier sa prédiction, Alexandre eut recours à la mauvaise défaite de l'oracle de Delphes, et il mit ridiculement en avant la réponse faite à Crésus, à savoir que le dieu avait en effet promis une victoire, mais sans expliquer si elle serait remportée par les Romains ou par les ennemis. Cependant, la multitude accourait de toutes parts, la ville n'était plus assez grande pour contenir une foule immense de ceux qui venaient consulter l'oracle et ne pouvaient suffire à leurs besoins. Alexandre imagina des oracles nocturnes. Il prenait les billets, se couchait dessus, du moins il le disait, et il faisait le matin la réponse que le dieu lui avait inspirée en songe. Ses réponses étaient presque toutes obscures, à double sens, embarrassées,
surtout quand il s'apercevait que le billet était soigneusement cacheté.
N'osant pas se risquer en pareil cas, il écrivait au hasard ce qui lui venait en tête, s'imaginant que cela n'en valait que mieux pour un oracle. Il avait en outre établi des interprètes qui recevaient de ceux qui venaient le consulter un salaire considérable comme prix de l'explication et de la traduction des réponses du dieu. ont payé Alexandre pour obtenir cette place, chacun des interprètes lui fournissait un talent attique. Quelquefois, sans que l'on eût interrogé, sans qu'on eût envoyé vers lui, sans aucun sujet enfin, il rendait des oracles pour étonner les sots. Tel était celui-ci. « Désires-tu savoir quel amant en secret est reçu dans ton lit par ta caligénie ? L'esclave protogène, à qui ton cœur croyait et dont ta passion autrefois abusait, se venge sur ta femme et la tient asservie. Tu lui ravis l'honneur, il te rend l'infamie. Mais par eux le poison est déjà préparé qui doit les délivrer de ton œil qui les gêne. Sous ton lit près du mur, va trouver sans peine. La jeune Calypso connaît ce lieu caché. » Quel Démocrite n'eût pas été troublé en entendant préciser si exactement les noms et les lieux. Mais comme il aurait ensuite précisé ses prédictions, quand en aurait-il compris le sens? Souvent il répondait en syrien ou en celtique aux barbares qu'il interrogeait dans leur propre langue. Vu la difficulté qu'il avait à trouver des gens du même pays que ceux qui le consultaient, en pareil cas, il mettait un long intervalle entre la remise des tablettes et celle des réponses afin d'avoir le temps de les ouvrir à son aise et de trouver des hommes capables de lui expliquer tout en détail. Voici par exemple un oracle en langue scythique. Morphy et Garoulis, pour l'ombre Schneegala, abandonnera le jour. Une autre fois, il répondait en prose à une personne absente et qui n'existait peut-être pas, de s'en retourner au plus vite. Celui qui t'a envoyé est mort, il a été tué aujourd'hui par son voisin Dioclès, accompagné des voleurs Manius, Célère et Cubalus, qui sont déjà pris et mis au fer.
Écoute maintenant quelques-uns des oracles qu'il m'a rendus à moi-même.
Je lui demandais si Alexandre était chauve. Mon billet était cacheté avec saint soin, qui ne pouvait lui échapper. Il me répondit donc par cet oracle nocturne. Attis était autre que Malak, fils de Sabalak. Un autre jour, je lui fis cette même question écrite sur deux billets séparés. Quelle est la patrie du poète Homère? Ce furent différentes personnes qui les lui présentèrent sous différents noms. Trompé par mon jeune esclave, qui lui avait dit que je demandais un remède pour un mal de côté, il écrivit un des billets. Frottez-vous de quinine et de l'eau de latone. Et pour l'autre, comme il avait entendu dire que celui qui le consultait voulait savoir s'il ferait mieux d'aller en Italie par mer ou par terre, il me répondit, sans dire un seul mot, qui eût trait à Homère. Ne vous embarquez point, mieux vaut aller à pied. J'ai souvent employé contre lui plusieurs ruses du même genre, et notamment celle-ci. Je fis un jour une seule demande écrite, comme d'ordinaire, sur une tablette, et j'y inscrivis 8 oracles pour un tel. J'inventai un nom, et je lui envoyai les 8 drachmes voulues avec le surplus. L'envoi du prix et l'inscription du billet lui firent croire qu'il contenait 8 demandes, tandis qu'il n'en avait qu'une, que celle-ci était « Quand Alexandre sera-t-il convaincu d'imposture ?» Le prophète ne manqua pas de me répondre. 8 oracles, qui ne touchaient, comme on dit, ni à ciel ni à terre, mais tous ridicules et obscurs. Dans la suite, ayant appris mon tour, ainsi que le conseil que j'avais donné à Rutilianus de ne point épouser sa fille et de renoncer aux espérances dont le berçait l'oracle, il me jura, tu dois le croire, une haine implacable et me regarda comme son plus cruel ennemi. Rutilianus, lui ayant un jour fait une question sur mon compte, il répondit « Les intrigues de nuit, l'adultère, lui plaisent. » En somme, il n'avait pas tort de voir en moi un ennemi acharné. Aussi, lorsqu'il sut que j'étais arrivé dans sa ville, et quel était ce Lucien qui venait accompagné de 2 soldats, l'un armé d'une lance et l'autre d'un épieu, le gouverneur actuel de Cappadoce, qui était mon ami, me les avait donnés pour m'escorter jusqu'au bord de la mer.
Il me fit aussitôt inviter avec beaucoup de politesse et de courtoisie. Je me rends chez lui, et je le retrouve entouré d'une foule considérable. Par cet heureux hasard, je m'étais fait suivre de mes soldats. Il me présente, comme il le faisait à tout le monde, sa main droite à baiser, mais, au lieu d'y appliquer mes lèvres, je le mords vigoureusement à l'estropier tout à fait. Ses assistants voulaient me frapper et m'étrangler comme un sacrilège, fort courroucé déjà, de ce que je l'avais appelé simplement Alexandre, sans lui donner son nom de prophète. Pour lui, il supporta bravement cette insulte, apaisa la multitude, et me promit de me prendre aisément plus traitable et de montrer la puissance de Glycon, qui souvent avait changé en ami ses ennemis les plus acharnés. Alors, faisant retirer tout le monde, il se mit à plaider sa cause, disant qu'il me connaissait parfaitement et n'ignorait pas les conseils que j'avais donnés à Rutilianus. « Que vous ai-je fait, ajouta-t-il, pour me traiter ainsi, vous que je ne puis pousser au plus haut degré de la fortune ?» Je n'eus garde alors de refuser sa bienveillance en voyant à quel péril je m'étais exposé. Je sortis bientôt, devenu son ami, et ne fut pas un petit sujet d'étonnement pour la foule de voir le prompt changement qui s'était opéré en moi. Quelque temps après, alors que j'avais pris la résolution de m'embarquer, il m'envoya des dons, des présents d'hospitalité, et comme je voyageais seul avec Xénophon, ayant fait partir d'avance mon père et les miens pour Amastris, Alexandre me promit de me fournir un vaisseau et des rameurs pour me conduire. Je croyais qu'il agissait avec franchise et cordialité. Mais quand je fus au milieu du trajet, voyant le pilote pleurer et converser avec les matelots, je commençai à soupçonner quelque mauvais dessein. Or, il était convenu avec Alexandre de se saisir de nous et de nous jeter à la mer. Si cela fût arrivé, c'était un moyen expéditif de terminer la guerre avec moi. Mais les larmes du pilote engagèrent ses compagnons à ne nous faire aucun mal. « J'ai 60 ans, me dit-il. J'ai mené jusqu'ici une vie irréprochable et sans tache. Je ne veux point, à mon âge, ayant une femme et des enfants, souiller ma main d'un homicide. » Puis il nous déclara dans quel dessein il nous avait pris à son bord et les ordres qu'il avait reçus d'Alexandre. Il nous mit à terre à Égial, dont fait mention l'illustre Homère, et retourna sur ses pas. Là je trouvai de passage quelques habitants du Bosphore, envoyés en Bithynie par le roi Eupator pour payer le tribut annuel. Je leur racontai le péril que nous avions couru, ils me reçurent avec égard, me prirent avec eux sur leur vaisseau, et j'arrivai sain et sauf à Amastris, après avoir été en danger de mort. Depuis ce moment, je déclarai une guerre ouverte à Alexandre. Je fis mouvoir, comme on dit, toutes les cordes dans l'espoir de me venger. Je le haïssais déjà de sa perfidie, ses mœurs corrompues me le faisaient regarder comme un ennemi mortel. Je me résolus donc de me porter son accusateur, secondé du reste dans mon dessein par un grand nombre de personnes et surtout par les philosophes, disciples de Timocrate d'Héraclée. Mais le gouverneur actuel de la Bithynie et du pont m'en empêcha et employa presque les prières et les supplications pour m'en détourner. Il me dit que son amitié pour Rutilianus le mettait dans l'impossibilité de punir Alexandre, lors même qu'il serait convaincu d'imposture. Je fus donc arrêté dans mon élan, en voyant que mon audace intempestive échouerait contre un juge si favorablement disposé. Mais n'est-ce pas un des plus grands tours d'effronterie d'Alexandre d'avoir osé demander à l'empereur de changer le nom d'Abonouteikos pour celui d'Ionopolis et d'avoir fait frapper une médaille qui, d'un côté, portait l'image de Glycon et de l'autre, représentait Alexandre couronné des bandelettes de son aïeul Esculape et tenant à la main la fameuse épée recourbée de Persée, dont il prétendait descendre par sa mère. Il avait annoncé, dans un oracle relatif à sa personne, que la destinée lui accordait de vivre 150 ans et qu'il mourrait d'un coup de foudre. Cependant, il eut, avant 70 ans, une fin des plus misérables. Ce fils de Podalyre périt d'un ulcère gangréneux qui s'étendit de la jambe jusqu'à l'aine et qui se remplit de vers. Ce fut alors qu'on découvrit qu'il était chauve, la douleur lui ayant fait représenter sa tête au médecin pour l'arroser, et cette opération n'ayant pu avoir lieu sans qu'on enlevât sa chevelure artificielle. Telle fut la fin de la tragédie d'Alexandre, la catastrophe de ce long drame. Quoique cet événement soit l'effet du hasard, il pourrait à bon droit être considéré comme l'œuvre d'une certaine providence. Il ne manquait plus que de faire aux morts des funérailles dignes de sa vie et d'ouvrir un concours pour la succession de l'oracle. Les complices d'Alexandre, les chefs des imposteurs qui l'entouraient, se rendirent auprès de Rutilianus et le firent juge du choix de ceux qu'il fallait élire pour rendre les réponses, ceindre la couronne d'hiérophante et se vêtir de la robe de prophète. Il y avait parmi eux un nommé Pétus, médecin de son métier, aux cheveux déjà blancs, qui aspirait à jouer ce rôle indigne d'un médecin et d'un vieillard. Mais l'agonothète Rutilianus les renvoya tous sans couronne et conserva à son beau-père le droit de rendre des oracles, même après qu'il n'était plus. Voilà, mon doux ami, quelques-uns des traits que j'ai voulu choisir entre 1000 pour en composer cette histoire, entreprise dans l'intention d'être agréable à un ami que je chéris et que j'admire par-dessus tous les autres, pour sa sagesse, son amour de la vérité, la douceur de son caractère, sa bienveillance, sa vie tranquille, sa courtoisie avec ceux qui le fréquentent. En autre chose qui doit te plaire, j'ai voulu venger Épicure, ce philosophe vraiment sacré, ce génie divin qui seul a réellement connu ce qui est vrai et l'a transmis à ses disciples, dont il est devenu le libérateur. Je crois aussi que ceux qui liront cet écrit y trouveront quelque utilité, puisqu'il démasque l'imposture et qu'il confirme les gens sensés dans leur opinion. Fin.